crucifié et ressuscité. Amen. Alors, je vais remettre des choses. Vous savez que j'étais un peu remonté un peu dans le temps. Et alors, loin de moi la pensée de juger quelques hommes ou quelques réformateurs que ce soit. Je vais parler de Luther. Pour moi, Luther était quelqu'un qui a compris quelque chose, que Dieu s'est servi pour l'emmener et emmener l'Église au-delà de ce qu'elle était à l'époque. Mais ce n'est pas pour ça que Luther avait toute la vérité. Donc, quand je vais parler de Luther, je dirais, dans des termes des fois peut-être négatifs, ce n'est pas un jugement contre l'homme. Croyez-moi, c'est vraiment au point de vue doctrinal que je le fais. D'accord ? Ceci étant posé, voilà, j'ai une question à vous poser. La foi seule peut-elle nous sauver ? Qui répond oui ? Qui répond non ? Qui répond non ? Vous levez la main. Et qui répond oui ? Alors d'où vient l'origine de cette idée ? Ben, c'est Luther. Luther, le père du protestantisme, il a affiché sur son église, vous savez peut-être, les cinq solas. Les cinq solas, c'est sola scriptura, écriture seule. Sola gratia, la grâce seulement. Sola fide, la foi seulement. Solus Christus, par Christ seulement, ou par Jésus seulement. Soli Deo Gloria, la gloire de Dieu seulement. Alors, effectivement, sola gratia, sola Christus, sola Gloria Deo, sola Deo Gloria, pardon. Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sola Scriptura, là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sola Fide, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Et la Bible n'est pas du tout d'accord avec lui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On peut lire dans Marc, au chapitre 2. L'évangile de Marc, au chapitre 2. Au verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ma question, qu'est-ce qu'il a vu Jésus ? Dans leur foi, en voyant leur foi, qu'est-ce qu'il a vu ? Une action. Une action. Ils auraient pu rester au-delà de la foule, à 200 mètres de la maison, en disant « J'ai foi en Jésus. J'ai foi qui va me guérir. » Non. Ils sont montés, ils ont découvert, et puis il fallait en vouloir pour découvrir la maison, parce que c'est... Et ils ont descendu le lit. Et Jésus, voyant leur foi, a dit au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés. » Comment Jésus a vu leur foi ? Il a vu leur foi par leur œuvre. Alors, on va lire dans Jacques. Comprenez bien. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Point d'interrogation. Si un frère et une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'eux leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à un corps, à quoi cela servirait-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi y croient, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain ou homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi seule peut-elle sauver? Même Jacques se pose un point d'interrogation. Il dit que non. Alors vous savez que, pour en revenir à Luther, Luther ne croyait pas à la révélation par le Saint-Esprit, que le texte de Jacques était inspiré à cause de ça. Il l'appelait l'épître de Jacques, il l'appelait l'épître de paille. Et il était prêt à le retirer de la Bible, comme les autres livres apocryphes. Apocryphes, ça veut dire non inspiré, les livres d'histoire. Il disait, et il l'a gardé parce qu'il y avait une telle pression des autres réformateurs, parce qu'il y avait Calvin à côté quand même. Il l'a gardé, mais il disait dans l'épître d'introduction de sa Bible, il dit, l'épître de Jacques, je l'ai gardé parce qu'elle est bonne à lire, mais on ne peut en aucun cas en tirer une théorie. Donc, parce que ça contredisait le sola fide. Abraham a-t-il été seulement sauvé par la foi? Beaucoup pensent que, comme Abraham existait bien longtemps avant la loi de Moïse, qu'effectivement, il a été sauvé seulement par la foi, parce que c'est écrit comme ça, hein, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est vrai, il a été sauvé, enfin il a été justifié par la foi. Mais n'empêche qu'il a fallu qu'il passe par une autre période de sa vie qui était beaucoup moins drôle, qui était celle du sacrifice que Dieu lui demandait, le sacrifice d'Isaac. Et ce sacrifice d'Isaac, c'était juste pour montrer, prouver de manière terrestre, qu'il croyait en Dieu, qu'il croyait vraiment en Dieu. On peut dire « je crois en Dieu hein, », on peut venir chanter le dimanche « je crois en Dieu » et toute la semaine, aucune œuvre. Alors, est-ce que Abraham était sous la loi de Moïse? Ça, c'est une autre question que je vous pose. Est-ce que Abraham... Vous allez dire « il est fou, lui ». Moïse, il était après. Mais est-ce qu'Abraham a été sous la loi que Moïse a écrite sur le mont Sinaï, enfin, qu'il a reçue sur le mont Sinaï? Est-ce qu'il y était? Qui répond oui, qui répond non? Ouais, je vous ai perdu là. Est-ce qu'Abraham était sous la loi? Je pose la question. Oui, non? Oui? Oui? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? La loi, c'était 500 ans après, 600 ans après. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, on va lire dans Genèse 26, 5. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Allô? En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. On va me dire, mais comment ça peut se faire? On peut lire dans Genèse 7, hein. On va remonter un peu plus haut encore. Genèse 7, 1. L'Éternel dit à Noé, ça remonte loin là. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi sept couples de toutes les bêtes pures, mâles et femelles, un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle. Comment Noé connaissait la différence entre les animaux purs et les animaux impurs, puisque ça a été donné dans le Lévitique au chapitre 11, dans la loi. Dieu a expliqué à Moïse ce qu'était un animal pur, un animal impur au chapitre 11 du Lévitique, pas avant. Et pourtant, Noé, lui, faisait déjà le distinguo entre les animaux purs et les animaux impurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la loi était déjà là avant même qu'elle fusse écrite et révélée par Moïse sur le mont Sinaï. C'était la loi qui datait même peut-être d'Adam. Depuis Adam, elle était là. Elle était orale, sûrement, puisqu'il n'y avait pas d'écrit. Elle était orale, mais les gens connaissaient la loi qui allait être écrite des siècles plus tard, qui allait être révélée par Moïse, mais ce n'était pas une invention de Moïse. La loi est éternelle. La loi est éternelle. Elle était dès le commencement. Et si vous voulez savoir si elle sera jusqu'à la fin, revenez à ce que je vous avais enseigné sur Jésus qui disait que je n'étais pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et que tant que le ciel, la terre, enfin le ciel, le soleil sera là, le jour et la nuit sera là, pas un iota de la loi passera. La loi est éternelle. De même, Jean, dans son évangile, l'entrée de Jean, chapitre 1, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement. Et la parole s'est faite chair, elle est venue parmi nous. Il parlait de qui? De Jésus. Vous savez que dans l'Apocalypse, il dit que Jésus, c'est le roi de rois, et est marqué sur son cuisse, il est la parole de Dieu. Il est la Torah. Enfin, la parole Torah, ça ne veut pas dire spécialement loi, ça veut dire parole, enseignement. Ce n'est pas les 10 commandements, que les 10 commandements, quoi. Il y a aussi, parce qu'on parle de loi, tout de suite, on voit le Sinaï, on voit les éclairs, on voit Moïse avec le truc et les deux tables. Il y a ça aussi, mais ce n'est pas que ça, la loi. La loi, c'est le code qui a été dès le commencement, donné dès le commencement. Alors, pourquoi comparer la loi et Jésus? Qu'ont-ils de semblable? Alors, tu peux mettre la première diapo? On peut lire que la loi est la parole. C'est dans Ésaïe, chapitre 2, verset 3. Il est dit que de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. On peut lire, toujours dans Ésaïe, je vais le sortir parce que je ne l'ai pas noté. Mais vous pouvez noter, j'ai mis la diapo, comme ça vous pouvez noter tous les passages pour ceux qui veulent noter. Alors parce que je vous encourage à ne pas me croire sans vérifier. Honnêtement, je vous encourage à ne pas me croire sans vérifier. C'est pour ça que je vous donne tous les passages. Mais vous pouvez me croire aussi. Ésaïe 51. Il est dit au verset 4. Donne-moi ton attention, ô mon peuple, ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi et je ferai jaillir mon jugement pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche et mon salut va paraître. Est-ce qu'il a dit pour être la lumière d'Israël? Il aurait pu, hein, puisque de toute façon on ne parle que d'Israël dans l'Ancien Testament. Non, la lumière des peuples. Pas que d'Israël, des peuples. Donc la loi, c'est la lumière. Psaume 119, au verset 151. Je le lis. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Donc, la loi et la parole, la lumière, la vérité, et c'est aussi le chemin dans Deutéronome 30, chapitre 30 au verset 16. Car ce que je te commande aujourd'hui est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas rentrer en sa possession. Si tu marches dans ses chemins, dans ses voies, et en parlant d'observer ses commandements. Alors vous allez me dire, bon, c'est bien, ça c'est la loi. Bon, maintenant on va passer à Jésus. Vous connaissez Jésus ? Ben, j'ai dit, hein, c'est la parole au chapitre Jean 1. Jésus dit qu'il est la lumière du monde, la lumière des peuples. Ah, lumière des peuples, lumière du monde. Bon, il y a une variation. Et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et je crois même qu'à un moment, il disait que la loi, c'était aussi la vie, c'est dans le psaume 119, il faut le relire. Suis ma loi et tu vivras. Donc, est-ce que... Quand je parle de la loi, c'est effectivement les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est-à-dire on a un standard qui est là et c'est ces œuvres qu'il faut faire, enfin qu'il faut accomplir dans notre cœur. Je vous ai dit ce que c'était la loi de Moïse. Vous la savez, hein, je répète pour ceux qui n'étaient pas là. Marc 12. L'enseignement, c'est une longue répétition. Marc 12, au verset 28, Marc 12, 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus dit, voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force, ainsi que ton prochain comme toi-même. C'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et Jésus, en voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui poser de questions. Et dans un autre passage, il est dit que dans ces deux commandements est accomplie toute la loi et les prophètes. Alors effectivement, notre problème en tant que chrétien du 20e, 21e siècle, c'est de considérer le tout ou rien. On ne sait pas faire la part des choses. On ne sait pas La vérité, les vérités sont des fois plus nuancées que ce que l'on peut croire. Ce n'est pas d'un côté la foi, Jésus, et la loi, c'est l'ancienne alliance. Je ne veux absolument pas en entendre parler parce que moi, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Je suis désolé, Jésus est bâti aussi sur la loi. Après, je suis d'accord avec vous, il y a eu non pas un changement d'alliance, mais un changement de sacerdoce. Vous savez ce que c'est qu'un sacerdoce ? C'est la prêtrise, c'est l'autorité spirituelle. Moïse a établi la loi avec le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique, c'est quoi ? C'est tout ce qui concerne les sacrifices d'animaux, la justification par le sang des animaux qu'ils étaient obligés de sacrifier plusieurs fois par jour, mais qui ne purifiaient pas. Tout ce qui avait trait au temple, enfin au tabernacle et au temple, c'était lévitique. Je vous invite à lire l'Épître aux Hébreux, qui dit qu'il y a eu un changement. Que maintenant, le sacrificateur, le grand sacrificateur, n'est plus lévite, mais il est, selon l'ordre, de Melchisédek. Melchisédek, en hébreu, ça veut dire roi de justice. Le roi de justice, c'est qui ? C'est Jésus, le Messie, qui a sacrifié une fois pour toutes. Il s'est sacrifié une fois pour toutes à travers de son sang. La loi, alors vous allez dire, ouais, mais attendez, je regardais dans Paul et tout ça, la loi, est-ce qu'elle justifie ? Est-ce que... il est écrit que la loi ne sauve pas, gna gna. Oui, effectivement, c'est écrit comme ça. Je remonte. La loi ne justifie pas. Une fois pour toutes, la seule chose qui justifie, la seule œuvre qui justifie, la seule personne qui justifie, c'est le sang de Jésus, le Messie, qui s'est livré pour nous justifier, j'utilise bien le terme justifier, pour nous justifier de notre péché. On a pu y revenir, il nous a justifiés. Une fois pour toutes, n'essayez pas d'accomplir la loi pour vous justifier, c'est ce qu'a fait le peuple d'Israël. Il n'a jamais réussi, il n'est jamais parvenu à se justifier. Par ça. La foi, c'est ça, c'est la grâce. On peut le lire dans Éphésiens, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et non pas par les œuvres. Ça aussi, vous allez me dire, ça contredit ce que je viens de dire. Ah, Paul, on va le lire, tiens. Éphésiens. C'est Éphésiens que je retrouve. Je retrouve, j'ai perdu mon passage. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. 2:8, voilà, merci. Je savais que c'était 2, mais je ne savais plus où était le verset. 2:8. Je suis dans Galates, pour ça. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Galates 2:8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Attends, Paul. Tu dis, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ok. Enfin, par la grâce que nous sommes sauvés. Ok. Le moyen, c'est quoi ? La foi. J'ai cru que Jésus-Christ était mon Seigneur et Sauveur. Ok. Ce n'est pas par les œuvres. Bah oui, ce n'est pas par les œuvres que je suis justifié, puisque c'est celui qui m'a justifié, c'est Jésus-Christ. Donc tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. Tu n'es pas justifié. Et pourtant, Marc, il dit le contraire. Enfin, il dit autre chose. Par contre, Paul continue. Ça ne s'arrête pas là, parce que nous, on s'arrête là. Hein. Les chrétiens, on aime bien. Bon, allez, ok, à ciao, bonsoir. On va pouvoir continuer à dormir. Je suis sauvé en Jésus-Christ, j'ai le salut. Et, tata. Et il dit quoi ? Attends, je continue. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus. On a été créés en Christ Jésus. Pourquoi ? Pour des œuvres. Bonnes. Oh mince, il va falloir la bosser. Que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas tes œuvres à toi, c'est les œuvres afin que nous les pratiquions. Si Dieu prépare des œuvres d'avance et que tu ne les pratiques pas, montre-moi ta foi. Et moi, je te montrerai mes œuvres. Alors, il faut les deux. C'est moi qui vous le dis. Après, vous pouvez le vérifier. Je peux me tromper. Hein. Mais moi, je me base sur la Bible. Il faut les deux. Il faut la foi en Jésus et les œuvres qui sont déjà le premier de ces œuvres, c'est garder ses commandements. Garder ses commandements. Et on est dans les temps de la fin. On peut lire Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12, vous voulez lire ? Allez, on y va. Quelle est la particularité des saints de l'Apocalypse ? 14, verset 12. C'est la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ça, c'est au niveau de l'agneau de ses rachetés. Bon, vous allez me dire, je me base sur un verset, là. C'est pas terrible. Il faut jamais se baser que sur un verset. Hein. Il faut se baser sur plusieurs versets. Alors, on va prendre Apocalypse 12. Un autre verset de l'Apocalypse. 12 au verset 17. Le dragon, oula, fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il y a les deux. Les deux sont indissociables. C'est la caractéristique des saints de l'Apocalypse. Alors, ceci dit, Luther, par rapport à l'Apocalypse, je vais encore régler quelques comptes. Vous savez ce qu'il a dit de l'Apocalypse, Luther ? Je ne peux en aucune manière ressentir que le Saint-Esprit a pu produire ce livre. Notre grand réformateur, il a dit ça, vous pouvez vérifier. Hein. Je vous demande même de le vérifier, ce que je dis. Je ne peux en aucune manière ressentir que le Saint-Esprit ait pu reproduire ce livre. Moi, je pense que Luther avait tellement cet esprit pour protester contre tout. Il avait raison, hein, d'ailleurs, parce qu'il y avait quand même des abus, qu'il a remis en cause des choses qu'il n'aurait pas dû remettre en cause. Il doutait aussi de l'inspiration de d'autres livres, hein, que vous connaissez, comme le livre d'Esther, l'épître de Jude, l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques, je l'ai déjà dit, et l'Apocalypse. Plus tous les livres apocryphes. Et pourtant, c'est lui qui a dit « Sola Scriptura ». mais sa scriptura à lui, donc juste ce qu'il arrangeait au niveau de sa doctrine. Moi, je pense qu'il fallait aller plus loin. Bien sûr, c'était déjà un grand réveil. Hein. Je ne dis pas, je ne remets pas du tout en cause la réforme. C'est pas du tout ça. Il a été beaucoup plus loin. Alors, pourquoi faut-il les deux ? Pourquoi la foi et les œuvres sont indissociables ? On va prendre l'exemple d'une voiture. On va dire que la foi, c'est la voiture. Avec le beau moteur, 140 chevaux, ça dépote, enfin non, 200 chevaux, ça dépote encore plus. Et que les œuvres, c'est le volant. D'accord ? Luther, là, il est en train de nous vendre, tu vas chez le concessionnaire Luther, il te dit, tu achètes une voiture, puis qu'au moment de la livraison, tu dis, mais il est où le volant ? Bah, le volant, il ne sert pas à grand-chose, on est sous la foi, quoi. Les œuvres, ça ne sert pas à grand-chose, le volant ne sert pas à grand-chose. Ah bon ? Bon. Bah, ce n'est pas une option, hein. Ce n'est pas comme les sièges chauffants. Et tu peux me montrer la première vidéo qu'on rigole un peu. J'avais envie de rire ce matin. Ça, c'est ce que Luther nous propose. La foi sans les œuvres. Ah, un beau moteur, hein. Tu peux essayer de rouler. Alors l'inverse est vrai aussi, et c'est pour ça que Luther a peut-être été trop loin, c'est que les œuvres sans la foi, alors là, si vous avez le volant et que vous n'avez pas la voiture, ou que vous n'avez plus la voiture, forcément, ça va aller un peu moins bien. Tu peux mettre la deuxième ? On va rire. Il a le volant. Hein. Quand vous avez le volant et que vous n'avez plus la voiture, forcément, vous allez devenir piéton. Ça, c'est ceux qui ont les œuvres, mais qui n'ont pas la foi. Et ça existe. Hein. Et c'est un peu contre ça que Luther a lutté, c'est qu'à le dire. Et c'est pour ça que je n'ai rien contre ce qu'il a peut-être été un peu loin dans ce qu'il a dit. Mais à l'époque, c'était, on faisait des œuvres, on achetait même des œuvres, tout ce qui était indulgence et tout ça. On gagnait son salut par l'argent, on gagnait son salut par des œuvres. C'est pas parce que tu vas faire 300 mètres sur les genoux à te fouetter le dos que tu vas être sauvé. C'est faux. C'est pas ça les œuvres. Les œuvres, c'est les œuvres de la loi. C'est pas écrit dans la loi qu'il faut se fouetter le dos et marcher sur les genoux sur des tessons de bouteilles. C'est pas ça. Donc, effectivement, quand on va chez le concessionnaire Martin Luther et qu'on voit le volant, il est utile. Le moteur aussi. Il faut les deux. Alors, ce que Luther n'a pas compris entièrement, et ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est le salut est en plusieurs étapes. Ah mince. Alors là, attention à ce que tu vas dire. Romains 2, 3, 28. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs, par la foi. Est-ce que nous annulons ainsi la loi ? Par la foi. Très important ce passage, on ne le lit pas souvent. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi ? Certes, non. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors là, Paul est en train de dire aux Romains que c'est par la foi que nous sommes sauvés ou par la loi des œuvres ? Non. Mais par la loi de la foi. La foi est la base. La foi est le fondement. Mais la foi n'annule pas la loi. Parce que la loi est restée le schéma type pour vivre dans la foi. Je ne sais pas si je me fais bien expliquer. Les 10 commandements, tu ne convoiteras pas, etc., etc. Si on ne les avait pas aujourd'hui, déjà on voit que quand ils y sont, on les a oubliés. Mais ça a été pendant des siècles, le fait qu'on ait pu se vivre ensemble sans s'entretuer, enfin presque. Parce qu'on s'est quand même entretué quand même. Mais imaginez sans la loi. Ça a été le garde-fou, on va dire, de ça. Et donc les œuvres... Chez nous, donc, on peut le lire, la foi est la porte d'entrée, la justification. Sans la foi, on est perdu. Ce n'est pas parce que tu vas faire des œuvres de la loi, tu peux accomplir toutes les œuvres de la loi. Les Juifs, ils ont fait ça depuis 2000 ans, ils n'ont pas réussi. Ça, on est d'accord. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi ? C'est les œuvres. Les œuvres de la loi. Et il dit que dans Hébreux 12, 14, ces œuvres de la loi, c'est la sanctification. Si vous suivez les œuvres de la loi, vous portez les fruits de l'esprit de Galates 5. Les fruits de l'esprit, vous savez ce que c'est ? C'est la patience, la tolérance, il y a quoi ? Là ? La douceur, il y a d'autres ? La maîtrise de soi, la tempérance. C'est le contraire de tout ce qui est animosité, mensonge, etc. Donc ça, j'espère que vous n'en êtes pas là. C'est-à-dire, j'espère que vous ne volez pas, que vous ne mentez pas, que vous n'êtes pas plein d'animosité, que vous ne voulez pas tuer votre frère, même en pensée. Hein. C'est-à-dire, des fois, vous connaissez, là j'avais dit dans Matthieu 5, si vous voulez voir la loi de Jésus, c'est quelque chose. Hein. Si tu insultes ton frère ou tu dis que c'est un idiot, ça équivaut à dire tu l'as tué. Si tu regardes une femme de loin, avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Ça, c'est la loi de Jésus. Pourtant, c'est la loi de Moïse, c'est dans les 10 commandements. Hein. C'est écrit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Attention, les œuvres de la loi, elles sont encore là. Et elles sont même plus restrictives, des fois, sur certains sujets. Et moins restrictif sur d'autres sujets. Voilà. La deuxième étape, c'est la sanctification. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, parce que dans Philippiens 2.12, on peut le lire dans Philippiens 2.12, il est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement. Mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore que je suis absent. » Ce n'était pas ce passage-là que je voulais, mais enfin, vous avez obéi avec crainte et tremblement. Et il y a un autre passage qui dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Je ne sais plus où il est. C'est celui-là. Alors attends, parce que là, comme je n'ai pas mes lunettes, je n'ai pas vu où il était. Enfin, bon, voilà, l'idée, c'est travailler à votre salut. Moi, ça m'avait toujours posé problème à un moment, parce que dire, attendez, on est sauvé ou on n'est pas sauvé? Ça veut dire quoi, travailler à votre salut? C'est bon, une fois pour toutes, en Jésus-Christ. On est justifié. Amen, on est justifié. Mais, la justification en Jésus-Christ ne nous autorise pas à pécher. Je suis justifié, je pêche, je dis pardon, je suis justifié, je pêche, je dis pardon, gna 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 gna. Et surtout, je ne travaille pas à ma sanctification, de toute façon, Jésus va me pardonner. Attention à ça. Il est dit quand même que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est dans Hébreux, chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors, je ne veux pas vous mettre sous un joug, mais je voudrais quand même qu'on cesse d'être négligent. Quand vous acceptez Jésus, comme disait Bonhoeffer, c'était un pasteur allemand qui a d'ailleurs été exécuté par Hitler, il disait « La grâce est gratuite, mais pas bon marché. » La grâce est gratuite. On a reçu la grâce en Jésus-Christ gratuitement, mais elle n'est pas bon marché pour la suite. Elle n'est pas bon marché parce que quand il y en a qui dit « Croyez en Jésus, ça ne vous engage à rien », je l'ai entendu. Hein. « Croyez en Jésus, ça ne vous engage à rien, vous pouvez lever la main, vous faites la prière du pécheur, ça ne vous engage à rien. » Bah si, ça t'engage toute ta vie. Et ça t'engage à quoi? À la sanctification. La sanctification. La troisième étape, je ne vais pas en parler beaucoup, du salut, parce qu'elle n'est pas encore arrivée, c'est la résurrection. Mais sachez, et c'est un peu le problème que Paul avait eu vis-à-vis de certaines églises, à l'époque de Paul, les païens pensaient que le corps, de toute façon, il était terrestre, et que de toute façon, dès qu'on était mort, il retournait poussière et puis terminé, on n'en parle plus. Et c'est pour ça que certains se permettaient de dire « Moi, je suis spirituel, j'ai mon esprit, j'ai mon âme, mais alors avec mon corps, je fais ce que je veux parce que de toute façon, il n'héritera pas du royaume de Dieu, donc je peux pécher, je peux aller voir les prostituées, je peux faire ce que je veux avec mon corps, l'impureté, tout ce qu'on veut. » C'était ça que Paul disait. Et c'est là-dessus que Paul a combattu, parce que c'était vraiment une doctrine même enracinée qui pouvait aller dans l'Église. C'est pour ça qu'il a dit ne vous unissez pas aux prostituées, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Paul a dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Attendez, arrêtez. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc ne faites pas n'importe quoi avec votre corps sous prétexte qu'il... Parce que Paul savait que le corps devait être pur aussi. Devait être purifié par la grâce de Dieu. Et on peut le lire dans 1 Thessaloniciens au verset 5. Et ce sera ma conclusion avec deux passages. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit d'abord, déjà, ça commence bien. Enfin, ça soit 19. Hein. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que Dieu de paix, que le Dieu de paix, tout vous sanctifie lui-même tout entier, de tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Je vais arrêter là. Et là, je mets un bémol aussi à ce que j'ai dit, parce que là, je ne veux pas mettre l'Église sous un joug en disant « il faut absolument que je me sanctifie ». Oui, peut-être que tu as des problèmes. Peut-être que tu n'es pas sanctifié. Peut-être qu'il y a des points dans ta vie qui ne sont pas bien. Peut-être que tu as un péché dans ta vie encore, que tu gardes, que tu chéris. Oui, Seigneur le sait. La seule chose que tu dois faire par rapport à ça, c'est de le confesser à Jésus-Christ. Nous avons un avocat auprès du Père qui est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si toutefois nous le mettons à la lumière et nous lui proposons. La sanctification ne vient pas de toi non plus. Tu dois travailler à ta sanctification. Mais il est dit quoi là? Il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est le Dieu de paix qui vous sanctifie lui-même, tout entier. Corps, enfin non, on a l'habitude, hein, esprit, âme et corps, les trois. Et pour conclure, 1 Corinthiens, vous connaissez tous, 1 Corinthiens, premier chapitre de 1 Corinthiens 1, au verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tout ce que je vous ai enseigné au niveau des œuvres, sans négliger non plus que les œuvres, c'est la loi qui les a établies pour notre sanctification. La vraie œuvre que vous faites, ce n'est pas combien je vais avoir de convertis demain, combien. Ce n'est pas ça les œuvres. Ce n'est pas que ça. Effectivement, c'est porter du fruit. Mais le premier fruit que vous devez porter, c'est le fruit intérieur. Votre caractère, votre sanctification, votre douceur, tous les fruits de l'esprit de Galates 5. Ça, ce sont les œuvres de la loi. Ça, ce sont les œuvres de la loi. D'abord. Après, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est ça. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y a encore un commandement qui a été rajouté à cela, pour les chrétiens, enfin pour tous ceux qui ont cru en Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Voilà ce que c'est les œuvres de la loi. Aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que je voulais partager. C'était peut-être pas agréable à entendre, mais restez dans le repos. Restez dans le repos. C'est ce que dit, efforcez-vous de rester dans le repos. Car c'est Dieu qui accomplit en nous le vouloir et le faire. Mais ne négligez pas, ne soyez pas négligents, ne négligez pas un si grand salut. Dans le nom de Jésus. Amen.